c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, beso de su boca yo me vi, amor de mis amores, reina mía.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, de retour à mon côté, Béatrix. Bonjour Béatrix.
Oui, bonjour Eduardo.
Et à la technique, Antoine. Au sommaire de cette semaine, nous allons parler de l'Uruguay, du Pérou, de l'Argentine, du Brésil, du Panama et aussi de la Amazonie. Alors, je laisse la parole à Béatrice pour vous parler d'un nouveau président en Uruguay, n'est-ce pas, Béatrice ?
Oui, nouveau président de gauche qui entre en fonction. Yamandou Orsi, ancien maire et professeur d'histoire, a pris ses fonctions du nouveau président de l'Uruguay à la tête d'un gouvernement qui s'est engagé à renforcer le filet de sécurité sociale tout en inversant des années de stagnation économique. L'investiture d'Orsi, 57 ans, marque le retour du front large de centre-gauche, de modérés, de communistes et de syndicalistes radicaux, après une interruption de 5 ans par le président conservateur sortant de pays, Luis Lacalle. Des acclamations ont éclaté alors que M. Orsi prêtait serment devant le Congrès, samedi dernier à Montevideo, la capitale de l'Uruguay. La cérémonie a eu lieu 3 mois après la victoire de M. Orsi dans une course électorale très civilisée, saluée comme un antidote à la polarisation qui s'empare de la région. Dans son discours, il a critiqué la désillusion croissante envers les normes démocratiques en Amérique latine, qui a entraîné un glissement vers la droite de l'Argentine voisine à San Salvador en Amérique centrale.
Thank you. tango aussi de l'Uruguay. Mais nous allons partir à
Pérou.
Côté, au Pérou, justement, pour parler d'un musée de la mémoire, n'est-ce pas ?
Oui, qui est sous pression des autorités locales et nationales. Le lieu de la mémoire, de la tolérance et de la réconciliation à Lima est un musée au nom sans ambiguïté. Cet édifice qui surplombe l'océan Pacifique essaye de remplir ses trois missions. Se souvenir des 70 000 victimes mortes ou disparues du conflit armé péruvien des années 1980 et 1990, qui opposait le gouvernement péruvien aux guérillas communistes du Sentier Lumineux et du mouvement révolutionnaire Tupac Amaru.
Oui, et il faut préciser aussi, Béatrix, que le président Fujimori a mené une bataille terrible. Il y a eu aussi des morts. Fujimori qui a été condamné par la suite.
Ben oui, mais sans doute, ça devait partir des 70 000 victimes, sans doute. Faire exister la voix de différentes victimes et enfin réconcilier tous les Péruviens avec cette histoire douloureuse. Mais cette vision de la mémoire du conflit dérange les autorités péruviennes, notamment pour l'implication des forces gouvernementales dans certains crimes. Dans son virage à l'extrême droite, le gouvernement péruvien a pris la décision de renvoyer le président du musée, Manuel Burga, une éviction brutale pour celui qui a été à la tête du musée pendant plus de 10 ans. Et voilà ce qu'il disait. Le pouvoir politique ne veut pas d'un lieu de mémoire, mais d'un musée pour montrer le triomphe des forces armées de l'État. L'orientation politique du musée change totalement de cap comparé à son objectif jusque-là affiché. La nouvelle administration a annulé tous les événements prévus. Pour les associations, c'est une nouvelle attaque contre la mémoire des victimes.
Así, callejón de bailas, para nuestra hermosa tierra mexicana, llena de historia, música y recuerdos.
Folklore péruvien. Et nous allons partir maintenant à notre grand pays de l'Amérique latine, évidemment, parce que vous êtes à l'écoute de l'émission L'autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord. L'Argentine, donc, on parle du coût de la vie, n'est-ce pas, Béatrix ?
Oui, qui devient inabordable. la valeur d'un expresso dans un café de la capitale Buenos Aires, un peu plus de 3 euros. Le prix d'un seul yaourt dans un supermarché, quelques 1,70 €. La vidéo des touristes espagnols s'offusquant de prix bien plus élevés chez Zara en Argentine que dans leur pays a fait le tour des réseaux sociaux. Les conditions de vie, en revanche, ne sont pas améliorées. Les services publics font les frais de coupe claire de la part d'un gouvernement souhaitant réduire l'État à sa portion congrue, détériorant encore davantage, par exemple, un parcours de soins à l'hôpital public. Le salaire minimal s'élève à environ 265 euros mensuels. Ainsi, exprimé en pesos ou en dollars, la vie est chère pour les Argentins et la consommation en repli. Le gouvernement table sur un régime favorable aux gros investissements pour attirer des dollars et maintenir la valeur du peso à flot. Dans la logique de Javier Milei, le pays doit gagner en compétitivité, non pas en dévaluant, mais en dérégulant davantage l'économie. Mais les nouveaux droits de douane imposés par Donald Trump pourraient basculer les desseins du gouvernement argentin.
Tango, tango argentin. Mais il y a un autre grand pays qui a des problèmes avec les sans-terres, n'est-ce pas, Béatrix ?
Oui, le mouvement des sans-terres alternatives à l'agro-industrie. Né en 1984, le mouvement des sans-terres, organisation sociale qui milite pour une réforme agraire, occupe des fermes inexploitées jusqu'à ce que le gouvernement leur accorde leur propriété. À l'opposé de l'agro-industrie brésilienne, souvent critiqué pour son recours intensif aux pesticides et l'impact dévastateur des monocultures sur la biodiversité. Au Congrès, à Rio de Janeiro, où 290 députés et 50 sénateurs représentent les intérêts de l'agro-industrie, la redistribution des terres constitue un coût politique élevé. En conséquence, seules 3500 familles du mouvement Sans Terre ont obtenu l'octroi de terres par le gouvernement au cours du mandat du président Lula da Silva, tandis que 100 000 familles restent encore sans terres. En février dernier, 400 familles du mouvement ont décidé de planter leurs tentes sur les terres d'une ferme de canne à sucre à Campos dos Guayatacas. Selon le MST, le gouvernement avait promis de leur octroyer 7 terres à la suite d'une faute de paiement de 200 millions de reais de son propriétaire.
Oui, et cette manifestation, donc, les participants ont dû... C'est parti parce qu'ils ont été menacés par des policiers qui ont été envoyés par un maire partisan de l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Voilà donc ce qu'on peut dire de ce mouvement de santé alternative à l'agro-industrie, comme vient de l'indiquer Béatrix. Brésil, ce rythme qui donne envie de danser. Mais nous allons parler d'un problème au Panama avec les migrants.
Oui, les migrants évitent les refuges du Panama. Luis Montilla a préféré dormir sur une plage du Panama plutôt que d'être confiné dans un centre d'accueil pour migrants lors de son voyage de retour vers le Venezuela, entrepris après avoir échoué à entrer aux États-Unis. « Nous ne sommes pas des animaux », explique le jeune homme de 28 ans en référence au traitement que les migrants reçoivent de la part des autorités en Amérique centrale. Comme lui, des dizaines de Vénézuéliens attendent dans le village de Miramar, sur la côte caraïbe du Panama, que des membres de leur famille leur envoient de l'argent pour le voyage en bateau vers l'Amérique du Sud. À pied et en bus, ils ont quitté le Mexique après que Donald Trump a renforcé la politique migratoire yankee et annuler les rendez-vous pour demander l'asile. Ce barrage a déclenché une nouvelle vague migratoire du nord vers le sud, laissant les autorités d'Amérique centrale débordées. La migration inverse n'est pas un retour volontaire, mais plutôt le reflet d'une crise majeure qui a plongé des milliers de personnes dans l'incertitude.
Vous êtes venu d'écouter l'émission L'autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord. Et nous allons partir au Brésil encore pour parler de ce très grave problème.
Les rivières de la cocaïne.
Le narcotrafic, oui.
Qui gangrène la région. Les voies navigables sont privilégiées depuis que le trafic aérien de drogue est plus surveillé. Ils sont considérés aujourd'hui comme les cours d'eau les plus dangereux d'Amazonie. Non pour cause de difficultés de navigation, mais du fait des inquiétantes embarcations qui les fréquentent. Les rivières de cocaïne, comme on les appelle au Brésil, sont devenues la chasse gardée des narcotrafiquants. L'Amazone et 15 de ses affluents ont gagné ce sinistre surnom depuis la publication d'une note consacrée aux nouvelles routes du trafic de drogue. Le document fait état de l'emprise croissante du crime organisé le long des voies fluviales de la forêt tropicale. Parmi ces cours d'eau, où vogue désormais librement la poudre blanche, on trouve des rios bien connus, Rio Negro, Madeira, mais aussi de plus discrets comme l'Albuna, qui coule sur seulement 375 km contre 1500 pour d'autres. Tous permettent de relier les régions productrices de cocaïne en Bolivie, au Pérou et en Colombie, au grand port brésilien de l'Amazonie et de la façade atlantique. Cette mainmise a des conséquences directes et tragiques sur les populations locales. Pour pouvoir acheminer, stocker et protéger la drogue, les trafiquants enrôlent des habitants résidant le long des rivières, embauchés comme pilotes de bateaux, agents de sécurité ou manutentionnaires, à leurs risques et périls, bien sûr. Selon le Forum brésilien de sécurité publique, Les factions seraient présentes dans plus d'un tiers des municipalités d'Amazonie.
Et on peut ajouter que les trafiquants s'adaptent et modifient sans cesse leurs routes empruntant des cours d'eau plus discrets. Loin de s'arrêter au trafic des drogues, ils diversifient aussi leurs activités. Et ce qu'on nous dit à Alaya Colares, le narcotrafic est de plus en plus lié à l'orpaillage, à la contrebande de bois et au vol des terres. Voilà donc ce qu'on peut souligner, ces narcotrafiquants qui sont très, très, comment dirais-je, ruchés, n'est-ce pas Béatrix?
Prolifique.
Ils s'adaptent à tous les... Et c'est comme ça qu'aussi envahissent, même en Europe, c'est un problème à niveau mondial. Des folklores brésiliens. Notre émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent latino-américain. Merci à Béatrice de retour à notre émission qui nous a livré des infos sur l'Amérique latine. Et merci à Antoine à la technique. Muchas gracias. Hasta pronto. Thank you.